Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien par les temps qui courent. Tous les soirs, un ou une artiste pendant une heure. Ce soir, le réalisateur Alexander Avatourov.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richaud avec Alexander Avatourov.
Quand on aime le cinéma, quand on aime en faire passionnément, réaliser un film peut être une forme de réponse aux béances de l'existence. Apprenant la mort de votre cousin, membre des forces spéciales russes dans une opération à l'âge de 21 ans, on suppose votre souffle coupé, Alexander Avatourov, vous vous lancez dans un premier long-métrage documentaire. Filmez ces jeunes crânes rasés, ces lits faits au millimètre, ces entraînements où l'automatisme tente de gommer toute trace de peur. Filmez le chagrin silencieux de votre oncle, les larmes de votre tante. Filmez comme on construit en même temps et de manière interdépendante la masculinité, le patriotisme et le rapport à la violence. Filmer tout cela est une des réponses impossibles mais possibles à la mort d'un si jeune homme. C'est aussi, on imagine, une façon pour vous de filmer la Russie. Bonsoir Alexander Avatourov.
Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde.
Votre premier film s'appelle Le Fils, il sort en salle le 29 mai prochain. Et si je rappelle ce moment où vous apprenez la mort de votre cousin, c'est parce que c'est quelque chose que nous apprenons nous aussi au début du film. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous avez appris la mort de ce jeune homme et de la, je parle d'une sorte de béance de l'existence, mais peut-être à partir de quoi vous avez décidé d'en faire un film?
Malheureusement, je m'en souviens très très bien de ce jour. Et je suis pas sûr que je vais l'oublier. Enfin, j'ai pas forcément envie. J'ai envie de le garder avec moi. C'était en France. J'étais loin de la maison natale de Novosibirsk, de Sibérie, d'où je viens et d'où venait la nouvelle. J'étais en France. J'étais au sud. C'était le printemps. C'était le 23 mai. Il faisait hyper beau. Il avait les fleurs de partout. La vie reprenait en plein allure son cours. Et cette nouvelle, effectivement, enfin, ça peut pas être pas choquante, c'était très douloureux. Et quand j'ai appris ça, évidemment, j'ai appelé tout de suite aux parents d'Ima, mon oncle et ma tante, pour essayer de les soutenir, mais en fait, j'arrivais pas, j'étais très en colère et très choqué. Et c'est eux qui m'ont tendu la main de soutien. Et c'est ma tante qui m'a dit, maintenant, tu nous dois faire un film. Et je pense qu'elle, et ça l'est sorti naturellement, et c'était vraiment pour m'occuper, pour essayer d'occuper ma tête par quelque chose où je peux vraiment faire quelque chose dans une situation où on peut pas faire grand chose, malheureusement. Et j'avoue qu'au début, je l'ai presque pas pris au sérieux, je me disais que c'est impossible de traiter un sujet aussi dur et de se poser des questions du cinéma, avec tout ce lien intime que j'ai. Mais petit à petit, cette idée, ça partait pas, et cette phrase, et il m'a resté, et je l'attends depuis toujours. Et effectivement, avec le temps, c'est devenu un moyen de, c'est pas d'évacuer la douleur, mais quand même, il avait une énergie qui demandait de sortir. Et ça sortait pendant 4 ans après que je faisais ce film. C'était un peu long. Mais
c'était long de pouvoir réussir à le faire.
Il y avait plein de raisons pourquoi ça durait 4 ans. Mais c'était assez long. Bon, déjà, je voulais prendre mon temps. Je voulais pas faire quelque chose d'assez rapide. Et je voulais vraiment arriver au bout de maximum que je pouvais avoir et de pouvoir faire. Du coup, au final, c'était 4 ans de travail, 3 ans de tournage, des tentatives de tournage, parce que c'est J'imagine qu'on va en parler après, mais c'est pas le terrain facile, disons, pour arriver avec la caméra ou avec une équipe de tournage. Du coup, ça s'est décalé, ça s'est annulé, c'était autorisé, après c'était pas autorisé, il y avait des cas de FSB, c'était un bordel pas possible. Mais au final, avec à l'aide de tous les gens qui m'ont entouré, qui m'ont soutenu, qui j'ai énormément de reconnaissance, et évidemment les proches et les amis qui m'ont soutenu, mais aussi les gens qui ont donné vraiment un coup de main pour faire ce film, Rebecca Ouzel, la productrice, Artyom Petrov, un ami à moi qui m'aidait à la caméra, Luc Fourvey qui faisait le montage, qui prenait quand même toute cette bande des émotions. Pas facile. Et pendant tout ce temps, et merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Je vous aime.
C'était quoi votre rapport avec le cinéma avant ce coup de fil?
C'est le premier long métrage qui sort au cinéma, mais j'ai déjà fait quelques documentaires avant. Et je commençais. C'était toujours un rêve de faire des films et de faire du cinéma. Je sais pas, ça se dit comme ça.
De faire du cinéma, ouais, ça se dit très bien. Ouais, ça se dit.
Parce qu'il y a un petit. Et si c'est moi qui fais du cinéma ou est-ce que. Bon.
Ou si c'est le cinéma qui vous fait. Ou c'est quoi, ouais, c'est quoi le truc.
Non, assez souvent on dit arrête ton cinéma, arrête de faire ton cinéma. Donc, je sais jamais si c'est.
Si non, vous vouliez faire des films.
Voilà, je voulais faire des films.
Pas faire votre cinéma.
Et c'est en arrivant en France, j'ai eu, l'inspiration, les motivations, et les moyens et les gens qui m'ont soutenu et qui m'aident de les faire. Ça a commencé à Lussas. C'est une petite village, c'est une village documentaire. Peut-être ceux qui s'intéressent au cinéma documentaire d'auteur ont entendu parler déjà. Où j'ai fait mon Master 2.
C'est à la fois un festival et un lieu de formation, en fait.
Ouais, c'est un énorme... C'est comme les maisons de la radio, mais dans un petit village où il y a des boîtes de production, les boîtes de distribution. Il y a une vidéothèque la plus grande en Europe, je crois, avec tous les films d'auteurs, etc., etc. Et il y a un festival assez important et très chouette. Mais il y a aussi l'école documentaire de Lussas. Où je fais partie de cette communauté de tous les gens qui ont passé par là. Et c'est là où ça a commencé, effectivement. À la fin, j'ai fait Les âmes dormantes, c'était le premier film après l'école. Ça se passait aussi en Sibérie. C'était pendant les campagnes présidentielles de 2012 de M. Poutine, où j'ai filmé la politique et les rapports qui ont avec des gens... Un peu de loin, j'ai pris un peu de recul pour voir des choses qui se passent au point de vue de Sibérie, pour voir des processus qui se passent en Russie à l'époque. Et voilà, c'était en 2013 où j'ai dû enchaîner juste après la sortie au cinéma du réel du premier film Les âmes dormantes, où il y avait la mort de Dima qui arrivait et j'ai dû... ni un mois de mes désirs m'embarquer et m'engager dans ce nouveau projet, disons, si on peut le dire comme ça.
On y reviendra encore, Alexander Abatourov, mais je profite quand même que vous parliez de cette histoire de prise de recul ou de distance quant à la réalisation des âmes dormantes, puisque dans l'introduction, je disais que peut-être que ce film-là, c'est aussi une manière pour vous de filmer la Russie. Alors évidemment, c'est par un tout petit bout, mais en même temps, c'est par un tout petit bout qui donne une sorte d'image aussi très... puissante, très globale à qui connaît pas ce pays. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que si votre possibilité de faire du cinéma commence en France, c'est aussi parce que vous êtes éloigné de ce pays-là?
Oui, bien sûr, on dit souvent que si on prend un peu de recul, on voit mieux. Le champ est le plus grand, donc les nouvelles expériences, ça fait repenser autrement, revoir autrement ce que j'ai vécu avant. Et de voir la Russie après d'avoir vécu en France, effectivement, ça influence. Et je pense que c'est une bonne chose. Et les gens aussi, si les gens bougeaient beaucoup plus et voyaient beaucoup plus que la vie elle est différente partout, mais les gens restent les gens, les hommes et les femmes, et on est tous ensemble sur cette planète. Je pense que ça ferait pas de mal pour tout le monde. Donc, allons-y. Touriste de masse.
Vous avez envie de retirer cette phrase. Je sens que vous avez envie de retirer cette phrase.
C'était une bêtise, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire une blague. Mais...
On entre dans votre film.
Чем поверки приступить?
Он и уборщик.
Он и уборщик.
Павел сержант Лобач, Николай Петрович.
Пал смертью храбрый! 11 мая 2000 года превыполняю служебно-боевые задачи под населенным пунктом Сержень Юрт, Республика Чечня, награжден орденом мужества посмертно.
Рядовой Зимницкий Дмитрий Сергеевич.
Пал смертью храбрых 11 мая 2000 года при выполнении служебно-боевых задач под населенным пунктом Сержень Юрт, Республика Чечня, награжден орденом мужества посмертно.
Сержант Илюхин Дмитрий Александрович.
Пал смертью храбрых 23 мая 2013 года при выполнении служебно-боевых задач под населенным пунктом Губден, Республика Дагестан, награжден орденом мужества
посмертно.
Рядовой Гарипов Алексей Рафкатович.
Les mots que ces jeunes hommes ne disent pas en hurlant, c'est posthume. C'est le seul moment où leur voix redescend, Alexander Abatourov. C'est la manière dont on est quasiment accueilli dans votre film, par des yeux exorbités d'écrits, et aussi par des noms, puisque lors de cet appel du soir, on est donc avec des soldats en formation, on rappelle d'autres soldats morts au front. Et il me semble qu'on peut tout de suite parler de la fin de votre film, parce que ce sont des visages profondément silencieux, on y reviendra mais presque, qui regardent face caméra, comme s'il y avait une sorte de cercle entre le début et la fin de votre film, et que c'est un cercle qui se concentre sur ce que c'est qu'un visage d'humain, d'une certaine manière. Comment est-ce que vous avez eu l'autorisation d'être là, à ce moment-là, dans l'appel du soir ?
Bon, il y a plusieurs choses, je pense, qui étaient... évoquer l'humain, les visages, on en parlait, je pense, aussi ce soir. L'autorisation, oui, c'était effectivement l'enjeu presque principal du film, parce que c'est le milieu très fermé à la fois administrativement, où on ne laisse pas entrer des civils avec les caméras dedans d'habitude, mais aussi les communautés en soi, où les militaires, ils n'en parlent jamais de leurs missions, de leurs expériences, aux gens qui ne sont pas les militaires. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les civils, pour nous, les militaires, c'est des civils déguisés en drôle d'uniforme. Et pour les militaires, les civils, c'est vraiment quelque chose... Enfin, il y a des militaires et des civils, et ça se mélange pas. Et moi, j'étais explicitement un civil qui n'a jamais fait son service militaire, qui n'a jamais eu son expérience dans l'armée, et j'ai dû me faire accepter par des gens et d'avoir leur confiance et leurs aides. Donc, encore une fois, il y avait deux choses... différent à la fois qu'il y a des officiers qui me laissent entrer sur les territoires. Et ça, c'était beaucoup... c'était que grâce aux parents de Dima, à mon tante, mon oncle, qui ont venu, pareil, voir le chef de cette unité pour dire, nous, on veut faire un film à la mémoire de Dima, aidez-nous. Et effectivement, ils n'ont pas pu dire non, parce que c'est des gens aussi... On a du mal à dire non, ni à ma tante, ni à mon oncle, s'ils demandent.
Pourquoi ?
Bon, parce qu'ils sont des caractères assez forts. Sans appuyer trop, ils sont très affirmés. Mais bon, c'est vraiment une qualité. Et en fait, c'était en 2013. Et il n'y a pas beaucoup de temps qui sont passés entre aujourd'hui et 2013, mais je pense que c'était le dernier moment où je pouvais avoir un peu de liberté de déplacement dans ce milieu, parce qu'après il y avait l'Ukraine de 2014 qui arrivait tout de suite, et c'est là où j'ai commencé à tourner, et l'ambiance n'était plus pareille, effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de... je sais pas comment on pourrait appeler ça, beaucoup de tension. Mais quand même, c'était tout nouveau, ça arrivait d'un coup, et les gens ne savaient pas trop quoi faire, en fait, encore. Donc c'était très tendu, mais pas encore cadré. du coup, je peux avoir les autorisations. Et, mais je pense aujourd'hui, franchement, c'était, ça serait plus possible parce qu'ils sont fermés de plus en plus. Ils ont interdit aux militaires de partir à l'étranger. Ils ont interdit aux militaires d'avoir les portables pour, parce qu'il y avait plein de fuites avec les images qui circulaient, etc. Donc aujourd'hui, les caméras, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est le même processus qui se passe pareil, en France, qu'on voit en manif, toutes les réactions, on essaie d'empêcher les journalistes de filmer le travail de force de l'ordre. Mais du coup, bah, c'était le, c'est la Russie, c'est le pays des merveilles, en fait, quand même. Et tout est interdit, comme on dit, mais en fait, tout est possible si on sait par quelle porte, à quelle porte frapper. Et c'était des autorisations, disons, semi-officielles, où il n'y avait aucun papier, il était signé pour ne pas laisser les traces, mais juste on ouvrait les portes, on disait « bon, vas-y, rentre ». Ce qui, ça n'a pas marché toujours, ça ne marchait pas toujours. Il y avait des moments où j'ai dû arrêter pour plus que 6 mois pour que les choses se calment un petit peu, parce que je suis tombé sur une mauvaise personne qui est censée être contrôlée un peu. Pas trop de ça, mais c'était pas évident. Mais au final, par des petits bouts, en fait, j'arrivais, je tournais ce que je pouvais, je répartais, je laissais des choses un peu couler. Et enfin, c'était prévu que je pars en mission avec les gars, mais ça, pour le coup, ça n'a pas pu se faire. Les gens, ils ont pas pris ces risques. Parce qu'encore une fois, ils voulaient pas se mettre en danger si jamais quelque chose qui m'arrive. Ce que je comprends.
Le fait qu'on rentre dans votre film par des visages. Par des visages de jeunes hommes en uniforme et en train de hurler, et qu'en fait, ces visages, on va jamais les quitter, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça dit de votre film? Qu'est-ce que ça dit de votre film? Qu'est-ce que ça dit du cinéma que vous aviez envie de faire pour répondre à votre tante qui disait « fais un film ».
Oui, donc là, je parlais beaucoup des officiers, des autorisations, mais c'est
des
gens qui, je m'en fous complètement, en fait, d'eux. C'est juste qu'il fallait qu'ils me cassent pas les pieds. Qu'il me laisse faire mon travail. Je passais tout mon temps, évidemment, avec les gens de terrain, avec les gars comme dit Maelte, les gens soldats qui prennent plein de la tronche tout le temps. Mais c'est eux. Enfin, c'est juste parce que moi, je me sentais plus proche d'eux que les officiers qui donnent des ordres. Enfin, c'était très naturel et pas réfléchi, mais aussi parce que bon, Dima, il était pas un officier, qu'il était dans les bureaux, quoi. Et effectivement, quand j'ai débarqué au milieu de tous ces jeunes hommes, j'avoue que au début j'avais beaucoup de, enfin j'avais beaucoup de colère après d'avoir appris la mort de mon cousin pour l'armée, pour tout ce merdier. Mais aussi, je me demandais pourquoi lui il n'est pas rentré et vous les gars vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais beaucoup de colère contre ces soldats aussi. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu ses yeux, j'ai vu ses visages, j'ai vu que c'est juste des garçons. Enfin, comme Dima, ils sont tous pareils. C'est des victimes de cette situation. Et évidemment, je pouvais plus d'être en colère contre eux. Au contraire, j'ai ressenti, je voyais, ils étaient tous mes cousins. Et, bon, après, c'est comme dans n'importe quel milieu. Effectivement, tu t'approches plus des gens qui correspondent un peu au caractère, je ne sais pas. Mais c'était des, enfin, à la base, c'était, encore une fois, j'étais, la première acceptation qu'ils m'ont accordée, c'était parce que j'étais cousin de Dima, et qu'ils connaissaient Dima, et pour eux, c'était aussi important de faire ce film, donc ils étaient, et ils faisaient tout ce que je demandais, pour le film, ou, enfin, ils tenaient la présence de la caméra, et d'ailleurs, ils étaient très, très naturel. J'ai jamais senti un faux jeu chez eux où ils essayaient de faire semblant. C'est des gens extrêmement simples et qui restent honnêtes, en fait, qui sont extrêmement honnêtes. Et c'est juste que, enfin, ils se retrouvent où ils sont. Et ces visages, en fait, pour moi, tous ces visages qui sont dans le film et qui sont défilés devant mes yeux pendant le tournage, c'était, je voyais en fait toute cette machine qui représente l'armée, qui essaye de faire une espèce de viande hachée avec toutes leurs individualités, de l'écraser complètement en max, de raser les crânes, donner l'uniforme pareil, qu'ils soient tous pareils, il n'y a aucun individualité possible, mais en fait, j'ai vu que ils vont jamais y arriver. C'est toujours les jeunes hommes qui sont vivants, c'est les individualités, et c'est plus fort que cette machine qui essaie de s'en débarrasser.
Et ça, ça arrive par exemple par des points de montage, je vous coupe, mais le moment où on a passé beaucoup de temps avec ces jeunes gens au rythme des ordres des officiers et où on les retrouve dans une sorte de petit pique-nique avec leur mère, leur sœur, leur père, et que tout est un peu en vrac, les lits étaient au carré et là ils ont des sacs plastiques de couleurs, ils ont des espèces de petits tabourets, ils ont été mangés. Ils redeviennent les fils, les amoureux, les amants, les frères, les petits-fils, les cousins de tous ces humains-là. Et c'est la deuxième manière qu'on a de les rencontrer avec ce film-là. Et puis, il arrive un moment dans le film où on en vient à raconter la manière dont Dima est mort.
А мы на завтрак пошли 23-го.
On est parti prendre le petit déjeuner le 23. On mange et le commandant reçoit un coup de fil. On le voit changer de visage. On comprend qu'il s'est passé quelque chose. Il nous dit que Dima Lukin a été blessé. On est resté 5 minutes assis en silence. Blessure à la tête. Jusqu'à la fin, on a gardé espoir. À quelle heure vous êtes parti? Le temps de se préparer. On est parti vers 4 heures du matin. C'est Ivanich qui a vu les traces de pas? Il les a montrées? Oui, il a dit à Dima qu'il avait vu des traces de pas et Dima a transmis à la radio. Oui, je l'ai entendu. Il a eu Roma, c'est ça? Oui, oui, je crois, oui. Oui, c'est ça, et c'est tout. Et juste avant l'ascension, on a dû contourner les fourrés. J'étais là, et Ivanich était juste derrière. Donc il y avait Ivanich, toi, Dima et moi, et de l'autre côté, il y avait qui? Les éclaireurs, je crois, le navigateur. C'était ça leur indicatif, je crois. Et voilà. Et ça a commencé. C'était court, hein, 3-4 balles. Oui, à peu près. Tout le monde s'est mis à terre. Tout le monde s'est mis en position. J'appelais Dima, Dima. Tu l'avais pas vu? Oui, il y a eu un ronflement. J'ai retiré mon sac. J'ai couru vers lui et je l'ai retourné. Le temps de sortir la trousse de secours, j'ai commencé à lui bander la tête. Et d'un coup, ça a été la merde. Ça a grave tiré sur nous. Je me suis approchée, tu as fini le bandage. Et on a vu qu'il y avait du sang sur son épaule. On a coupé les angles de son gilet pare-balles. Et on a vu qu'il était blessé à l'épaule aussi.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Alexander Abatourov, ce qui se passe à l'écran dans cette scène de votre film, Le Fils? Qu'est-ce qu'on voit?
On voit quatre jeunes hommes assis sur les lits de caserne dans la nuit où ils évoquent la dernière mission de Dima.
Est-ce que c'est un récit que votre oncle et votre tante auraient eu si vous n'aviez pas fait le film, dans ces détails?
Je pense que c'est très dur pour eux d'entendre ça, mais pour moi, ça existe, et c'est pas tombé dans l'oubli.
Je veux dire, si vous n'aviez pas réalisé ce film, est-ce qu'ils auraient raconté ça? Est-ce que c'est une information dans le détail qu'aurait eu votre famille?
En fait, la version officielle qui était présentée par l'armée, qui était dans une espèce de journal de l'armée, enfin, journal intérieur qui circule dans les forces spéciales, dans l'armée, je ne sais pas exactement, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes récits, en fait. Ils essayaient de glorifier toute cette situation, de rajouter du héroïsme dans ce qui s'est passé, alors que si on entend bien, il ne s'est passé rien. Il a reçu une balle dans la tête, tout bêtement. Et ça, c'était pas ça ce qu'il voulait voir, l'armée. Donc, il racontait que Bon, bref, on s'en fout ce qu'il racontait, mais il voulait faire une espèce de récit de propagande à la con. Et effectivement, je suis très content. Enfin, content. Je pense que je trouve que c'est bien que ça existe, cette histoire, ce récit raconté par des gens qui ont été là, et par des paroles très simples, sans aucun... comment on appelle ça, pathétisme, ou j'en sais pas, sans grands mots, avec les mots très simples, comment eux les ont vécu, comment eux le voient, et comment ça a été, je pense, en vrai, en fait.
Au point que le film ne met pas tellement en avant la personne qui est responsable de la mort de Dima. La personne, ou le camp, ou je sais pas, ou... comme si, d'une certaine manière, pour vous, c'était pas tant la question.
Ce qui était assez important, c'est c'était pas dans le extrait, c'était à la fin de récit où, où Ruslan, un des gars, il évoque que l'homme qui a tiré sur Dima, qui a tué Dima, il a perdu aussi un fils à lui. Et c'est pour ça qu'il a pris des armes, il est parti à la montagne pour foutre le bordel. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est encore une fois, je pense, c'est voit que ce fameux cercle lui sur de la violence. On en parle depuis le début de l'humanité, et j'espère qu'à un moment donné, on va arriver à le briser quand même. On progresse.
C'est marrant que vous disiez ça, marrant, c'est pas le bon mot, mais parce que moi, dans cette scène-là, je vois évidemment des jeunes gens, soldats, qui racontent ce qui est arrivé à votre cousin dans une caserne dans la nuit, et j'ai vraiment vu des textes antiques où on passe la nuit à raconter des batailles, à raconter les camps qui s'affrontent. Enfin, j'ai vraiment vu, en fait, qu'on passe notre temps à raconter comment on fait la guerre aux autres, quoi, et comment on perd des fils en faisant la guerre aux autres. J'ai vraiment vu cette espèce de fleuve de la littérature et des récits depuis le début de l'humanité qui ne fait que dire ça.
La guerre ne change pas, malheureusement. Ça peut changer ses formes, mais ça reste ce qui c'est. Mais bon, moi je crois. Peut-être c'est pas, je le verrai pas à mes yeux, ni mes enfants potentiels ne le verront pas, mais j'ai envie de croire que l'humanité est plus forte que ça, est plus intelligente que ça, et un jour, une meurtre, ça va être aussi incroyable que du cannibalisme, alors qu'avant on le faisait, pas de soucis. J'ai l'espoir pour l'humanité, je pense qu'on va dépasser ça, on doit le faire, parce que ça peut pas continuer... éternellement. Vous avez posé la question, est-ce que ça parle de la Russie? Ça parle de la Russie. Il y a plusieurs niveaux dans le film, effectivement. Il y a un niveau très intime, familial. Mais ça parle de tous les gens qui sont en Russie, qui sont obligés de passer par les services militaires, qui se retrouvent dans l'armée. Mais c'est aussi le récit planétaire, humain. Je pense qu'en France, il y en a plein d'histoires comme ça qu'on pourrait attendre. Malheureusement, toujours, même si je trouve qu'en France, il y a une vraie volonté, il y a une grosse partie de peuple qui se bat contre la guerre, contre le militarisme fou, etc., etc.
Ce qui est moins le cas en Russie, à vos yeux?
Malheureusement, oui.
C'est pour ça que votre film s'appelle Le Fils? C'est parce que vous essayez de penser avec ce film-là les choses à une échelle d'humanité?
Je ne l'ai pas essayé, c'est juste que je le vois comme ça, mais... J'ai mis ça dans le titre, ni cousin, ni le frère, ni j'en sais pas, Spetsnaz ou d'autres choses, parce que je trouve que ce qui est le plus important dans le film, c'est ça en fait. Assez souvent, on me pose les questions, pourquoi il n'y a pas la position d'auteur qui est très exprimée, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça, mais en fait, juste quand je suis arrivé à Novosibirsk. Et quand j'ai vu avec mes yeux ce qui se passe, on était au contact, mais en fait, je pouvais pas mettre moi et mes émotions et ma douleur devant tout, alors que je voyais les parents qui ont perdu leur fils unique. Et c'est pour ça, c'est ça le titre, c'est ce qui est juste, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus important dans le film, c'est la vie qui devrait se reproduire, et là, d'un coup... ça pourra plus avancer, en tout cas pour cette famille-là.
Il y en a plusieurs de positions d'auteur que vous prenez, Alexander Abatourov. Par exemple, votre manière de filmer le père de Dima et son silence, c'est une position d'auteur, ça, par exemple.
Non, mais moi, je trouve que moi, ma position, il est très clair. Enfin, je comprends pas, mais je pense que juste il y a une partie de gens qui veulent être réconfortés dans leurs idées qu'ils ont déjà dans leur tête par rapport
c'est-à-dire
à un sujet.
C'est-à-dire que ce soit plus anti-militariste, par exemple, que ce soit plus clairement contre le service militaire, que ce soit plus clairement contre le régime russe.
Ça peut être plus clair qu'une mort d'un jeune homme, mais bon. Effectivement, il y avait, j'ai entendu des retours comme ça, que c'est pas assez anti quelque chose ou pas assez pro quelque chose. Mais enfin, c'est marrant que même les gens de gauche à l'USAS, c'était assez critiqué par des gens de l'USAS, par exemple, qui ont disait que oui, mais si les soldats ils le voient, ils le voient bien. Bah, évidemment, ils se voient bien parce que c'est ça part de leur vie. Et ça part de leur vie telle qu'elle est.
Et je bien au pas sens quoi, c'est-à-dire d'avoir filmé ces jeunes hommes-là en les filmant avec un souci de l'image, par exemple.
J'en sais pas en fait. Je sais pas ce qu'ils, je vais pas, je sais pas ce qu'ils attendent de moi, mais en tout cas ce que je voulais faire, c'est de transmettre, d'exprimer avec des moyens de cinéma tout ce que je pouvais pas exprimer avec la parole. Et aussi toutes ces émotions qui sont retenues par les parents de Dima tout au long de leur vie maintenant, où ils sont obligés de prendre sur eux pour faire une bonne mine pendant les concerts officiels, le jour de l'armée, ou j'en sais rien. Et je trouve que c'est cette silence et ces émotions retenues, ce qui est le plus fort du film, et c'est là le film, c'est ça le cœur du film en tout cas. Après, les gens, parfois, ils voient un autre film, ils aimeraient voir d'autres films, et ils sont pas contents que c'est pas les films qui sont devant leurs yeux, mais je peux pas faire autrement, je fais le film comme je le fais, donc.
On a parlé des autorisations qui avaient été nécessaires pour filmer au sein de la formation de ces soldats des forces spéciales russes. Mais comment vous êtes vous-même autorisé à filmer ces quelques moments d'extrême pudeur, mais quand même d'extrême chagrin et de grandes difficultés pour nous, spectatrices et spectateurs, de ces deux parents qui ne font que constater l'absence de leur fils? Comment ça s'est passé pour vous, Alexander Abatourov?
Non, mais c'était la partie la plus dure du film. D'être dans l'armée, même si c'était fatigant physiquement, même moralement, à suivre tout ce parcours qui est assez compliqué. C'était presque un repos pour moi. En fait, d'une certaine manière, je pense que j'ai refait tout le cheminement qu'ils font les jeunes hommes qui veulent partir de leur milieu, de leur famille, qui vient assez souvent des petites bleds en Sibérie, paumés, où il n'y a pas beaucoup de vie possible. Et l'armée, pour eux, c'est une espèce de... un moyen de s'échapper, en fait. Et ça m'est arrivé, effectivement, de passer d'atelier de sculpteur ou le repas de commémoration, d'aller enchaîner avec les exercices des jeunes soldats. Et c'était beaucoup plus simple d'être avec des jeunes soldats et de courir des kilomètres dans les forêts que d'être de vivre le deuil, ce qui est normal, mais il fallait le faire. Et mais c'était très dur, mais juste je me suis dit que j'ai pas de choix. Enfin, je suis là et il faut que je filme ce qui se passe, même si c'est extrêmement dur. Et le moment qu'on voit, par exemple, dans le film, qu'on arrive au cimetière avec mon oncle, qui vient voir la tombe en préparation pour le fils, il observe le gars qui travaille les pierres, et qui est jusqu'aux ses genoux dans la tombe et qui penchait pour donner des coups de marteau, quoi. Et c'était la première fois quand je suis arrivé et c'était la première séquence que je tournais, enfin c'était la première fois quand j'ai sorti la caméra. Et là, enfin j'ai pris la caméra avec moi quand même, mais je ne m'attendais pas qu'on tombe sur ça. Et là, c'était vraiment la question. Je me disais, ok, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est quand même... Mais... J'étais... Voilà, c'était dit que... Je n'ai pas le choix, je dois faire ce film. Et même si c'est très dur, je vais continuer à le faire jusqu'à ce que le travail se termine.
D'ailleurs, dans la lassitude de cet homme qui construit la tombe pour le jeune soldat mort, peut-être ça vaut toutes les critiques possibles, explicites, à l'égard du service militaire. Un homme qui construit comme ça, avec tant de fatigue, avec tant de désolation, et une sorte de résignation aussi, et qui presque lui-même s'enterre, tellement il est profondément...
Je comprends pas déjà pourquoi le service militaire ça existe toujours alors qu'on est dans le 21e siècle. Et ça, c'est une autre question. Mais c'était aussi tout le soutien que j'ai eu de la part de mon oncle et ma tante, qui étaient, c'est les gens qui sont extrêmement simples. Ils se voient pas du tout d'être des personnages de films. Je pense que ils, d'une certaine manière, ils comprennent même pas pourquoi on devrait faire un film sur eux ou quelque chose comme ça, mais pour Dima, ils acceptaient la présence de la caméra et c'est eux qui, c'est moi qui me disais, tu filmes tout ce que tu vois. Évidemment, je filmais pas tout, mais en même temps, ça m'a encouragé quand même de continuer, de sortir la caméra dans les moments quand même extrêmement intimes, douloureux, etc., etc. Et encore une fois, il y avait Artyom Petrov, un ami photographe, chef opérateur, avec qui on a déjà fait Les âmes dormantes, le premier film. Il est de Novosibirsk, il est toujours là-bas, et c'est là, en fait, où il m'a aidé le plus. C'était pendant les moments familiaux, où je devais être là, en tant qu'un membre de famille. Et lui, il s'en chargeait de la caméra de ces moments-là. Enfin, évidemment, on a discuté en amont, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Mais grâce à l'expérience de travail ensemble, et ses capacités et son talent...
Ça vous libérait la tête, quoi.
Ça, en tout cas, j'ai pu être présent pour ma famille aussi, ce qui était aussi important. C'est, je ne pouvais pas abandonner, surtout pas cette rôle-là non plus. Et donc, il était présent et il m'a beaucoup aidé en s'en chargeant de la caméra. Quoi.
Bah, on va reparler de sa caméra.
Culture, par le temps qui court, Marie Richaud avec Alexandre Abouatrov.
On entend un extrait de votre film Le Fils et ce chant. Et je disais tout à l'heure combien votre caméra et celle de votre ami ne quittent pas les visages des jeunes soldats en formation. Et quand elle les quitte, c'est pour aller ou bien dans les arbres, dans la forêt, ou bien dans ce feu très mystérieux qu'on interprète de mille manières possibles, notamment comme le sacrifice d'une jeunesse, le sacrifice des fils, comme le sacrifice des petits garçons, comme le sacrifice des futurs possibles. C'était quoi pour vous ce feu-là, Alexander Abatourov?
Moi, j'esquive à chaque fois en fait les réponses pour cette question, puisque quand vous le dites, on peut l'interpréter de mille manières possibles. Et ce qui m'intéresse, effectivement, que le spectateur se le fait passer, qu'il fait passer à travers lui, et il fait sa propre lecture. Alors que si moi je dis ce que moi j'en pense, vu que j'ai quand même une place particulière de réalisateur,
ça peut fermer.
Ça va être ça, du coup. Et j'ai surtout pas envie de fermer ce dialogue, cet échange entre le spectateur et le film, où les portes sont les plus ouvertes.
Peut-être nous parler de ce chant alors, si on ne parle pas de ce que vous avez voulu précisément mettre derrière cette séquence de flammes.
Il y a deux séquences qui dans le film avec le feu qui viennent du même événement que je filmais dans un petit village de Sibérie. Et cette chanson-là, elle vient pas d'événements, c'est quelque chose qui moi j'ai rajouté en prenant ma liberté d'auteur de faire ce que j'ai envie. Et ce qui est assez marrant, d'une certaine manière, c'est que ce chant, c'est un chant traditionnel de mariage. Et dans la tradition, je pense que c'est pareil en Europe, ce qu'on appelle l'enterrement de jeune fille ou l'enterrement d'un jeune garçon. En fait, le mariage traditionnel, ça commence par un enterrement de fille qui meurt pour sa famille, qui va partir dans un autre monde, dans le monde de famille, de marié. Et du coup, c'est le chant de mariage qui rajoute une couche encore de lecture possible. C'est chanté par des femmes, alors qu'on reste quand même beaucoup dans le milieu des hommes. Et ça censé être faire son contraste, je pense, entre deux mondes. C'est aussi un pont, enfin, sans de faire les lectures, mais c'est aussi un pont qui lie la famille et l'armée, ces deux univers-là.
Les femmes, on les voit quand même, on les voit rarement, et quand on les voit, elles sont souvent en train de pleurer. Ou bien ce sont des jeunes femmes qui laissent partir leurs amoureux pour des mois de préparation ou des semaines, je ne sais pas. Ou bien ce sont des mères tristes, ou bien c'est votre tante éminemment triste puisque son fils est mort. Si bien que je me suis dit, il fait vraiment aussi un film aussi sur cette figure de femme pleureuse, quoi. Là aussi une figure très ancienne de la femme qui pleure les morts. Est-ce que vous avez eu conscience que c'était cette image-là que vous donniez des femmes jeunes ou moins jeunes?
Là, il y a de quoi pleurer pour les jeunes femmes et moins jeunes femmes, pour les copines ou pour les mères, parce qu'effectivement, c'est les arrivoirs pour assez longtemps. Donc, les services militaires, ça dure un an. Les retrouvailles qu'on voit dans le film, c'est après 3 mois d'absence totale de contact, où ils plongent complètement, on ne les laisse pas sortir, ils n'ont pas de portable. Donc, c'est vraiment le... où ça commence comme ça, de manière brusque, on retire le garçon de sa famille et de son milieu habituel. Je voulais pas du tout faire une image d'une femme pleureuse, je le vois pas comme ça du tout, même si je trouve que c'est extrêmement touchant. Mais en fait, moi je trouve que les femmes sont plus fortes que les hommes, et notamment en Russie où les hommes, on est élevé dans cette posture quand même d'être un homme viril, fort, etc., etc. Mais en fait, derrière cette virilité, il y a plein de faiblesses qui se cachent. Et c'est assez souvent les femmes qui ont tous les relais, qui ont obligé de porter le fardeau, quoi, et de continuer de bouger. Même sans parler de détails, mais dans l'exemple de mon oncle et ma tante, c'est ma tante qui sont obligées de faire une bonne mine, d'aller voir des gens, de faire le travail social, disons, etc., etc. Donc, c'est pas du tout, je vois pas du tout les femmes, ni les femmes russes, ni comme des pleureuses ou le maillot faible de cette chaîne. Au contraire, enfin, j'espère que dans le film, peut-être au niveau de temps, de présence, effectivement, on voit beaucoup plus des hommes, parce qu'on est dans les milieux quand même très musculins, mais cette présence bien ponctuée des femmes, ça doit vraiment ressortir une sorte de, aussi d'absurdité de ce jeu des hommes. Et de permettre de décaler le regard, en fait, sur en quoi on joue, nous, les hommes, je veux dire.
Et si on entre dans les détails, justement, il y a une réunion de famille où une femme annonce qu'elle attend un fils. Et d'un seul coup, le fils de votre titre, Alexander Abatourov, c'est aussi potentiellement ce petit garçon qui va naître. Et on parlait tout à l'heure du cercle vicieux de la violence. On peut aussi parler d'un cercle vicieux de la construction d'une certaine masculinité, d'une certaine virilité. Le fait que ce fils, que vous gardiez ça au montage, est-ce que c'est aussi une manière de dire que c'est aussi ça qui se joue à l'armée, dans le service militaire?
Bah, ce moment de famille, en fait, c'était plus pour dire que la vie, elle continue aussi. Qu'il y a des nouveaux enfants qui sont nés, et la vie continue, et ça doit continuer. C'est ça ce que je voulais dire tout d'abord. Mais effectivement, il y a tout de suite l'attention, est-ce que c'est un fils? C'est sûr que c'est un fils. Tout ce truc assez ancien, qu'il faut que ce soit un fils, je sais pas. Enfin.
Mais si, ça dit quand même ça dit des choses sur la place des garçons, des jeunes hommes ou des hommes dans cette société-là.
Ouais, enfin, c'est traditionnel, c'est le fils qui est censé de faire la transmission de je sais pas quoi, de la famille. Ça, c'est juste le nom, c'est le titre qui se transmet, et encore ça change. Mais pour moi, c'était vraiment c'était le moment de vie, quoi. Mais il y a aussi quand même ma tante qui est présente juste à côté. Il y a quand même le contraste, il y a la vie qui continue, mais pour les autres, malheureusement.
Est-ce que vous avez compris quelque chose en les filmant, ces jeunes hommes, pendant des mois et des mois? Quelque chose que vous ne vous attendiez pas à comprendre, Alexander Abatourov? Sur tout ça, sur l'armée, sur...
La chose la plus importante, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'armée, cette machine, elle essayait d'enlever l'individualité et elle n'arrivera pas. Que c'est plus fort que tous ces efforts à la con de propagande, enfin, entre... Je fais les signes de guillemets. L'humain est plus fort que la machine. Et ça, c'est ce que j'ai... Ce que j'ai appris, mais c'est pas par rapport à ces gens-là, c'est par rapport à, effectivement, l'armée et les gens. Enfin, parce que j'ai pas eu l'expérience avant interne par rapport à l'armée, même si ça reste très présent en Russie, parce qu'on est tous censés de faire le service militaire, et quand t'arrives à l'âge de 17-18, tu te demandes si tu vas y aller ou pas. Mais ouais, c'est ça. Et après, c'est... Les gens, ils se retrouvent, enfin, assez souvent, on pense que dans l'armée ou surtout dans les forces d'élite comme ça, les unités d'élite, c'est des patriotes hyper chargés qui y vont en hurlant pour la patrie, on va mourir, je ne sais pas. Mais c'est assez faux, en fait. Et c'est eux-mêmes les gars qui m'ont dit 90%, c'est juste les gars de kolkhoz. Qui essaye s'en sortir dans la vie. Et il y a un pourcentage tout petit des patriotes qui sont venus là pour des espèces d'engagement. Et en fait, l'armée, elle propose cette facilité. Viens chez nous, on va s'occuper de toi. Tu aimes faire le sport? Viens faire le sport, on fait que ça. T'aimes traîner avec tes poteaux? Viens, on a que des poteaux. T'aimes les armes? Regarde, c'est puissant, c'est la force, tu vas être fort avec nous. Tu vis chez tes parents, mais allez, t'as 18 ans, t'es un homme maintenant. Comment ça, tu vis chez tes parents avec ces sous-là? Il faut que tu gagnes l'argent. Nous, on va peut-être te donner un appartement un jour. Même ça, c'est encore pas gagné. Et c'est quoi la vie des gens si pour eux de se retrouver dans ce merdier, c'est plus facile
que le reste.
Que le reste. Et c'est ça le problème, en fait. Et c'est pas du tout... j'en sais pas... c'est là, en fait, que... Et à la vie civile qui doit être changée pour qu'on n'ait pas autant de problèmes avec l'armée. Peut-être pas l'inverse, presque.
C'est peut-être là votre manière de filmer la Russie, puisque je disais tout à l'heure que c'est un film qui filme la Russie en creux, d'une certaine manière, en disant que c'est à d'autres vies qu'ils essaient d'échapper en se foutant dans ce merdier, pour reprendre vos mots. Quelle est la valeur des plans de fin qui regardent chacun des visages avec attention et plutôt dans le silence, Alexander Abatourov?
Quelle valeur de plan? C'est un gros plan, non?
C'est un gros plan, c'est sûr. Et la valeur pour vous?
Bah, c'est là, en fait, effectivement, où le spectateur, encore une fois, il devait avoir le contact direct avec ce regard, parce qu'il regarde la caméra, il regarde le spectateur. Et c'est là où j'aimerais bien que les gens se disent, bah, en fait, c'est les gens comme nous, enfin, c'est les hommes, c'est les jeunes hommes, c'est des garçons, et c'est pas du tout les machines à tuer, ni les assassins, c'est des, d'une certaine manière, c'est des victimes. Et c'était ces plans, ils étaient faits juste avant leur départ pour une mission. Donc c'était et c'était la fin de tournage. Pour moi, c'était aussi un moyen de mettre un espèce de point final pour moi. Et on a joué à un jeu, on se dit, ah, tiens, vous regardez la caméra et on va voir qui va tenir plus longtemps.
Si c'est la caméra ou si c'est vous.
Si c'est vous ou si c'est la caméra, et il se figeait comme les cailloux. Et en fait, c'est moi qui j'en avais marre, j'ai dit, bon, ok, vous avez gagné les gars, la caméra, elle va se fondre avant que vous bougiez. Donc, ouais, c'était un espèce de jeu, c'était convivial, ouais. Après, il y a cette phrase qui était glissée, on part à la guerre, on part pour tuer, qui a un genre énormément de discussions, de critiques ou des interprétations, en disant, ah voilà, il assume que c'est des assassins qui s'excitent pour aller tuer des gens, mais pff, c'est vraiment n'importe quoi. Déjà, la plupart entre eux, je pense qu'ils n'ont jamais tué quelqu'un, et s'ils le font... Enfin, ils sachent qu'ils ont fait. Je pense que c'est loin d'être traumatisé. Enfin, je pense qu'il y a des études qui étaient faites, même pour des grandes guerres comme Deuxième Guerre mondiale, que c'est un pourcentage très petit pourcentage qui était capable de tuer des gens. En fait, la plupart, on peut pas le faire. Et je pense que ces gens-là, elles font partie, même s'ils font genre, on est des super commandos. Mais bon, c'est juste une posture. Et cette phrase. Enfin, ce jeune homme, la plupart des blagues, un peu des pics qui étaient envoyées pendant les projections du film, où il se moque de tonnes un peu débiles de films de guerre qu'ils sont en train de voir, ou quand il joue aux échecs, c'est lui qui dit que c'est le tour, qui avance tout droit et prend cher sur la gueule. C'est lui qui dit cette phrase, on part à la guerre, on part pour tuer. Et Zahar, ce jeune homme, il a vraiment un esprit très critique, une conscience très critique, et qui enlève toutes les fausses notes, justement. Il riposte par l'humour et par une espèce de cynisme à toute cette pollution intellectuelle qu'ils sont obligés de prendre sur leur tranche, en fait. Je ne sais pas, en fait, sur le coup, quand elle a dit, je ne me suis pas focalisé sur cette phrase, c'était dit sur un ton de blague, on est passé à côté, c'est quand il s'est retrouvé dans le film, effectivement, ça fait ressortir la phrase, ou les questions, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça, et je ne l'ai pas posé les questions, donc je peux que interpréter que moi, je l'ai entendu, en fait, quand elle a dit, mais je pense que c'était une très triste ironie, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, ce qui c'est leur vie, ce qu'on attend d'eux aussi d'une certaine manière. C'est les visions aussi que la plupart des spectateurs qu'ils ont, eux, qu'ils vont pour tuer, ils le savent aussi. C'est pour ça qu'ils le retournent vers la caméra, en fait. Je pense que c'est plus complexe que ça, en fait, le rapport à la violence et à la meurtre, parmi ces gens-là. Même s'ils sont évidemment, après toutes les années qu'ils passent dans l'armée, la violence, elle est acceptée, et ça fait partie du quotidien. Donc,
mais il n'empêche
je
ne
peux pas
que...
dire non plus que c'est des hippies pacifistes. Ça, c'est clair. C'est
mais
pas
votre
le cas.
Film ne le dit pas. Et il n'empêche que quand on voit ces visages-là et que très peu de temps après, la porte, c'est d'un porte-avions, c'est ça qui,
non,
se referme,
c'est l'avion, ouais.
Ouais, qui se referme devant eux, nous, on ne peut pas ne pas croire et ne pas se demander si tous ces jeunes hommes-là ne vont pas eux-mêmes se faire tuer et ne sont pas précisément en train de se faire broyer et substituer à la phrase de la fin, c'est-à-dire on va à la guerre pour se faire tuer, on va à la guerre pour tuer, en fait on va à la guerre pour se faire tuer.
C'est toute la grande question qui je pense qui reste suspendue dans l'air, enfin ce qui moi je me pose comme question en regardant cette image en tout cas, effectivement. Allez voir le film, ceux qui n'ont pas encore vu, vous allez voir.
Merci beaucoup, Alexander Abatourov. Le film est en salle à partir du 29 mai prochain et il s'appelle Le Fils.
Merci beaucoup.
De son ce soir, c'était Jean-Michel Bernaud, à la réalisation Charlotte Roux. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Valentin Rémy, Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les soirs. Dans un instant, 22h, c'est le journal sur France Culture. À demain.
Après, bon, allez, allez.